Alors, est-ce qu'il y va ou pas, Jean Charest?
Il n'y a pas eu une bonne journée hier.
Bon.
Je pense que les chances qu'il y aille ont légèrement diminué. Elles restent élevées, mais ont diminué hier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux mauvaises nouvelles pour Jean Charest hier. La première, c'est que Peter McKay, l'ancien ministre conservateur sous Harper, a décidé de se lancer. Et les stratèges conservateurs, Paul, et puis je te dirais les spécialistes de la politique canadienne, ont toujours dit ils n'iront pas l'un contre l'autre. Ça va être ou McKay ou Charest, mais pas McKay contre Charest ou
Charest. Pourquoi?
Parce qu'ils puisent dans les mêmes réseaux. D'abord, ils se ressemblent beaucoup sur le plan des idées. C'est des progressistes conservateurs, issus d'ailleurs de cette mouvance. Ils puisent dans les mêmes réseaux d'argent notamment, les mêmes amitiés. Alors,
Brian Mulroney est un exemple, là.
Oui, exactement, exactement. D'ailleurs, on ne sait plus trop Mulroney qui c'est qui appuie dans cette course-là, mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour te dire que le fait qu'il y aille, c'est pas une bonne nouvelle parce que McKay va aller puiser dans l'étal d'appui que Jean Charest voyait pour lui. Bon. Maintenant, alors je te donne un exemple de ça. Parce qu'hier, je te disais, une des raisons pour lesquelles ça se pourrait que Brian Mulroney finalement reste avec McKay, c'est qu'il voit que Charest a de la misère en Ontario. Michael Diamond, il n'y a pas un chat qu'il connaît. C'est lui qui a fait élire Doug Ford comme chef conservateur. Jean Charest a essayé de le recruter comme organisateur en Ontario, à Toronto. Et là, un matin, je lis dans le National Post que Michael Diamond, il s'en va organiser McKay. Il va diriger ses communications. Fait que, tu sais, Charest a essayé d'aller chercher. Finalement, c'est McKay qui le ramasse. Bon. Maintenant, soyons de bon compte. Il y a un stratège conservateur hier avec qui je parlais qui me dit... Ils pourraient s'échanger. McKay et Charest pourraient s'échanger leur deuxième choix. Parce que la manière dont ça marche au Parti conservateur, c'est que c'est un vote préférentiel. Mettons, tu votes pour Charest, premier choix. Après ça, tu peux mettre McKay, mon deuxième choix. Alors, le soir du décompte, si Charest débarque, c'est les votes de McKay. Comment je te dirais bien ça? Si tu as voté Charest, premier choix, puis tu as voté McKay, deuxième choix, si Charest débarque, à ce moment-là, c'est les votes de McKay qui sont comptés. Et donc, Charest et McKay pourraient faire une espèce de pacte de non-agression et se donner mutuellement leur deuxième choix. Charest dit à ses supporters « mets McKay comme deuxième choix ». McKay dit à ses supporters « mets Charest comme deuxième choix ». Fait que s'il y en a un ou l'autre qui débarque, ça pourrait aider l'allié, si tu veux. Tu comprends? Il pourrait faire une espèce de tandem informel. Maintenant, dans la réalité, ces affaires-là, ces calculs-là, des fois, là, ça marche plus ou moins. Mais ça pourrait être... une façon pour McKay et Charest de pas trop s'égratigner.
OK, mais M. Harper, entre-temps, ça, c'est l'autre nouvelle. Là.
Ben oui.
Le gars démissionne du fond du parti.
Ben, t'sais,
c'est pas pour aller passer plus de temps en famille. Là.
Non, non. Puis là, il y en a qui disent, écoutez, là, il démissionne pas pour ça. C'est pas vrai qu'il démissionne pour aller bloquer Charest. Il y a des conservateurs qui me disent ça. Mais le consensus, certainement, c'est que en démissionnant du fond conservateur, Harper se donne les coups des franges pour jouer un rôle dans la campagne. Alors, quel rôle? Le McLean's, le journaliste de Paul Wells du magazine McLean's, a écrit, citant des sources conservatrices de haut niveau, que Harper démissionnait du fonds conservateur pour aller bloquer Charest, pour intervenir dans la campagne
ben,
pour bloquer Charest.
C'est un peu ce que Luc Lavoie disait.
Ben oui, absolument, absolument. Et donc, alors tu sais, il y a toutes sortes de façons d'intervenir. Harper retrouve sa liberté d'action. Mm-hmm. Il n'est plus obligé d'être neutre. Alors, tu n'es pas obligé de faire campagne pour quelqu'un, là. Tu peux juste, à un moment donné, pendant la course, faire une ou deux déclarations, tu sais, un ou deux missiles qui nuisent à Charest. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de nuire à quelqu'un dans une course. Chose certaine, si Harper intervient pour appuyer quelqu'un, dans l'état actuel des choses, ce serait poilièvre.
En parlant de lui, là,
oui.
Je vais te faire une petite parenthèse.
Vas-y donc.
Là, son équipe nous contacte en disant que M. Poilievre aimait nous parler.
Oui, il voulait venir dans ton studio.
Demain.
Ben oui, il voulait.
Là, nous autres, on dit OK, il se présente.
Ben oui.
Là, il nous répond non, c'est pas décidé. Ça... Ben, en fait, c'est pas décidé. On va l'annoncer la semaine prochaine. Hey, prenez-les pas pour des imbéciles. Mm-hmm. Je peux pas l'avoir en face de moi en disant est-ce que vous vous présentez? Ben, je sais pas.
Je suis en réflexion.
Ben voyons donc. On sait qu'il va l'annoncer. Fait que tu dis ou tu me l'annonces. Ou t'attends de l'annoncer lundi, puis on verra la semaine prochaine si vous venez nous voir. Je trouve que ça part un peu bizarre et sur une patte, leur affaire.
Bien, regarde, Poilievre, là, il va, là.
Et c'est ça que je te dis.
Ce soir, il est dans une résidence de Westmount.
C'est ça. Mais okay. Pourquoi? C'est quoi les cacheteries, là?
Une rencontre, là. Tu sais, puis il s'en va pas là pour manger du popcorn, là. Une résidence de Westmount, il s'en va là pour ramasser de l'argent. Mm-hmm. C'est vrai? Bon. Il y en a de l'argent à Westmount. Hein? Pas besoin de te dire ça. Fait que c'est sûr qu'il y va, mais ça fait partie. C'est comme Mickey qui annonce hier. Comment est-ce qu'il a écrit ça? J'y vais, restez à l'écoute, puis il fait son point de presse seulement la semaine prochaine. C'est parce que là, c'est une guerre de positionnement. Il essaye d'attacher le plus possible des organisateurs, des députés. Tu sais, là, je sais pas si tu savais ça, mais dans les députés conservateurs actuels, là, au Québec, là, il y en a qui ont travaillé dans des cabinets de ministres libéraux. Luc Berthold, le député de Mégantic-l'Érable, lui, a travaillé pour Nathalie Normandeau. Il est député conservateur. C'est sûr que Charest va essayer d'aller le chercher. Joël Godin, il est député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier. Lui, a travaillé pour Sam Hamad. Ça a été des libéraux, ces députés conservateurs-là. C'est sûr que Charest va essayer d'aller le chercher. Richard Lehoux, celui qui a battu Maxime Bernier en Beauce, lui, il a été candidat libéral pour Jean Charest. Ouais. Contre l'ADQ, contre Janvier Grondin. Fait que Poilievre, une des raisons pour lesquelles il est au Québec, c'est qu'il veut attacher des députés conservateurs du Québec. Mais Charest travaille certains de ses députés parce qu'ils ont déjà été libéraux. Ils ont travaillé soit pour des ministres libéraux, ils ont été candidats libéraux. Puis là, l'argent, le vieux fonds bleu de l'Estrie, Paul, est en train de s'activer. Eux autres, là, ils ont travaillé fort pour Jean Charest dans le temps quand il était député de Sherbrooke. C'est du monde qui aime Charest et que Charest aime. C'est du monde qui ont le cellulaire de Jean Charest. Ils passent pas par la secrétaire, eux autres, quand ils veulent parler à Jean Charest. Ils veulent que Jean Charest y aille. Et puis, il y a du vieil argent là-dedans. Il y a des vieilles familles conservatrices en Estrie, dans un canton de l'Est. Tu comprends? Alors, la décision que Jean Charest doit prendre, c'est est-ce que j'ai un chemin vers la victoire? Et là, le moment est venu de déterminer est-ce que j'ai un chemin vers la victoire. C'est ça qu'il doit déterminer en fin de semaine. Parce que ça peut pas traîner bien, bien longtemps. S'il s'aperçoit qu'il y a un chemin vers la victoire, il va y aller, Paul. Parce que je pense qu'il voudra pas vivre avec le regret de pas l'avoir essayé.
On va attendre la décision de la Cour suprême dans le dossier de Marc Bibeau aujourd'hui.
Ça, c'est une chose. Puis sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire pour dire « Rona Ambrose, ça se pourrait encore qu'elle y aille ». Elle aurait l'appui de Harper.
En tout cas, c'est un bon scénario de film à date, là.
Elle aurait l'appui de Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta. M'a dire une affaire, ça bouge, là. C'est quand même, ben, pour quelqu'un qui aime la politique.
Oui, oui, non.
C'est intéressant. Puis, tu sais, il faut toujours... Tu sais, le ou la gagnante de la course pourrait être le prochain ou la prochaine première ministre du Canada. Tu sais, je veux dire, c'est quand même important. Il faut suivre ça.
Alors, l'humoriste Guy Nantel, qui il précise que pas une farce là, qu'il fait, là, il pense peut-être à se présenter à la direction du Parti québécois.
Moi, je vais te dire, là, il y a plus de chances qu'il se présente que de chances qu'il ne se présente pas.
Okay.
J'ai parlé à quelqu'un de sa garde rapprochée, et puis il est en train de s'organiser. Et là, il y a un obstacle qui a été levé, parce que le directeur général des élections a dit, si tu parles pas du PQ dans tes spectacles, ça comptera pas comme une dépense dans la course. Ça, c'est un obstacle très important qui vient d'être levé. Le deuxième obstacle, il est supposé y avoir deux débats dans la course au leadership du Parti québécois. Il faut pas que les débats se tiennent le soir où il est en spectacle. Parce que lui, il a déjà, c'est quoi, une quinzaine de spectacles
de vendus
entre le déclenchement de la course au PQ puis l'élection en juin. Fait que c'est sûr que si le PQ veut empêcher Nantel de se présenter, ils vont mettre les deux débats entre les candidats le soir de tu sais, mettons, ils vont en mettre un des deux le soir d'un spectacle où Nantel peut pas laisser tomber les gens qui ont acheté des billets, comprends-tu? Moi, je pense que si le PQ est de bonne foi, ils vont s'organiser pour pas que ça tombe le soir d'un spectacle. Et là, à ce moment-là, Nantel, honnêtement, je pense qu'il va y aller. Puis sais-tu quoi? Je pense que ça serait une bonne affaire.
Parce que
il a beau être humoriste, c'est pas un clown. C'est un gars qui a des idées. Il a écrit un livre, je l'ai lu son livre, je l'ai repassé hier soir. Écoute, c'est un gars qui a une pensée structurée, c'est un indépendantiste assumé, complètement décomplexé, nationaliste. Lui, là, il a déjà dit, puis j'ai hâte de voir s'il va reproposer l'idée, visage à découvert partout, dans les rues, partout dans l'espace public. C'est un peu radical, je vois pas comment tu peux faire appliquer ça. Mais en tout cas, ils le font en France, puis tu comprends? Alors lui, là, c'est un indépendant d'esprit. Avant d'être un indépendantiste, un indépendant d'esprit. Il attirerait beaucoup d'attention sur la course. Il contribuerait à la faire lever, je pense. Est-ce qu'il serait un bon chef? Un humoriste, c'est un loner. Un gars qui travaille tout seul. Qu'est-ce que tu veux? C'est un stand-up comique. Serais-tu capable de travailler en équipe? C'est un sport d'équipe, la politique. faut pas qu'il fasse un Martine Ouellet de lui-même. Puis là, tu as quatre autres candidats qui risquent de... Ben, il y a Gaudreau déjà d'annoncer. Il y en a trois autres qui risquent de venir. Plus Nantel, ça ferait 5 candidats pour le PQ. Je vais dire, pour un parti que certains donnent mort, il réussit à susciter quand même de l'intérêt.
Merci, monsieur.
Merci.
Bonne journée.
À demain.
Il est 7h12. On va aller voir ce qui se passe à Terrebonne.